Vous êtes bien sûr Dire en direct, l'émission hebdomadaire en direct, avec tous les aléas que ça comporte. On avait prévu un super habillage sonore, mais alors on a des petits problèmes de réseau, il semblerait quoi. Donc on va continuer ça en improvisant sans habillage sonore.
Je crois qu'on l'a retrouvé.
Ah, mais on l'a peut-être retrouvé.
Sur un autre outil, alors c'est parti, générique.
En direct.
101.7. 107.5.
Et voilà, il est 11h04, nous sommes avec l'équipe RDWEN dans le studio.
Salut.
Salut, salut. Pour aujourd'hui, on a prévu des chroniques que vous avez déjà entendues et qu'on continuera d'entendre, de la culture, de l'abstrait politique plutôt avec Nénu ensuite, une chronique mosaïque, une recette de Yves, de la musique. Et n'hésitez pas surtout à nous appeler ou à passer au studio. C'est l'heure du marché. Peut-être que tu nous entends dans la voiture, chez toi ou ailleurs. Si tu as une annonce d'actu locale ou autre, viens, n'hésite pas. On est au chaud là-haut. Je vais laisser la parole à mon cher Vincent qui va allègrement nous communiquer sa super chronique. Jingle.
Dire en direct, la page culture locale d'Iroise, 107.5 et 101.7 FM. Dire en direct.
En début de semaine, il y a un type qui est entré dans les bureaux de la radio avec une énergie incroyable pour déposer une affichette et quelques tracts informant des leçons de musique qu'il s'apprête à donner à Châtillon-en-Diois. Ce type, on le connaissait déjà un peu parce qu'il avait été en stage à RDWEN il y a quelque temps. Drôle, farfelu et très étonnant, enfin, c'est comme ça qu'on le regardait, souvent les yeux écarquillés au-devant de tant de spontanéité et d'énergie. Alors aujourd'hui, pour cette page de culture, nous avons le plaisir de vous présenter David Bader, musicien, multi-instrumentiste, passionné de langage en toutes sortes, mais aussi et avant tout celui de la musique. On est entré dans le studio et j'ai eu à peine le temps de mettre en route l'enregistreur qu'il avait déjà commencé. D'ailleurs, pas besoin de poser de questions, David connaît son sujet et comment le présenter. Introduction.
Des fois, on peut avoir peur, surtout quand on veut s'engager dans un apprentissage. Il ne faut surtout pas avoir de stress ou alors un stress positif comme un artiste qui chérit son œuvre et qui a toujours une appréhension du moment où il est passé sur scène pour faire communiquer un message à son public. C'est ça, si on veut apprendre la musique ou si on veut apprendre n'importe quelle autre discipline, il faut y aller avec le cœur, il faut y aller avec la bonne volonté, avec l'envie de se découvrir soi-même en fait, parce que le coach, le maître, le professeur, il est là juste pour nous faire découvrir ce que nous-mêmes on est déjà en fait. On va vous apporter des outils qui sont les instruments, la technique, les bases qui sont bonnes à apprendre pour pouvoir après explorer ce que vous-même, ce vers quoi vous avez envie d'aller, vous créer une identité artistique à vous, voilà.
Alors, bien sûr, avec David Bader, lors de ses leçons de musique, vous aborderez le solfège. Oui, le truc qui parfois rebute un peu, mais à sa manière, et voici comment.
Il y a la formation musicale qui est du solfège, on apprend à lire des notes en les chantant. On va avoir donc le visuel qui travaille sur la portée de musique avec toutes les notions. Ça s'appelle une clé de sol, ça s'appelle, bon, les lignes musicales s'appellent la portée musicale, il y a ces cinq lignes, et puis dessus il y a ces notes, là, ces formes rondes avec des petits crochets, tout ça, on va apprendre à déterminer ce que c'est qu'une noire, à quoi ça correspond dans le rythme, une croche, à quoi ça correspond, double croche, et après on va les chanter, Et on va associer les sons à des mots comme do, ré, mi, fa, sol. Je veux dire, quand on dit do, ré, mi, fa, sol, on va aussi le chanter et notre cerveau va associer le son à la note. Et petit à petit, vu qu'on est tout petit, on va coller ces deux notions ensemble, en fait. On va associer, c'est ça le mot, on va associer le son à la note, ce qui fait qu'après, on peut développer ce qu'on appelle l'oreille absolue. Voilà, c'est comme un mot qu'on va voir aujourd'hui, que nous qui avons appris le français, on va voir écrit devant nous un mot. On ne va pas avoir besoin de lire F-R-A-N-C-K. On va avoir de suite le cerveau qui va nous dire « Franck ». Voilà, c'est la même chose. Après, on va entendre des sons, on va de suite... Enfin, c'est possible, ça arrive pas à tout le monde, mais c'est possible d'avoir un jour, on se lève et puis on entend une mélodie au lieu d'entendre... On entend si, la, sol, la, do, ré, do, si, do, mi, dans notre tête de façon robotique, comme ça, c'est l'oreille absolue. Donc voilà. Voilà, on peut apprendre à lire la musique, on peut apprendre à écrire la musique, on peut apprendre à improviser autour d'un thème, on peut apprendre à respecter le thème, on peut apprendre à exprimer des choses différentes sur le même thème, donc travailler l'expressivité. Voilà, donc on va apprendre des techniques, on va apprendre ce que vous voulez apprendre.
Oui, on va apprendre ce que vous voulez apprendre. Ben, tout ça, c'est très chouette comme programme. Et avec les plus jeunes, avec les enfants, j'ai eu envie de savoir comment il allait aborder l'enseignement de la musique avec les plus jeunes. On l'écoute ?
Bah, ça peut être de la découverte des instruments percussifs, du tam-tam, du xylophone, et puis bon, toujours d'accompagner avec la joie de vivre. Et puis sans, là, justement, c'est encore frais, il n'y a pas de mental. Et puis petit à petit, si on sent qu'il y a une ouverture et qu'il y a un sens du rythme, et bien là, on peut développer sur des choses rythmées qui vont aller commencer à entraîner d'une façon régulière. Ça, c'est important à savoir aussi qu'il y a une régularité, ce qui fait, comme on disait par rapport au wagon, on s'accroche au wagon, il y a quelqu'un qui file droit devant nous, c'est quelqu'un qui a un allant. Par exemple, on doit aller d'un point A à un point B et on a la nuit pour y aller. Il faut quand même qu'on ait une certaine cadence. Donc ça va être ça, c'est-à-dire si on sent que là il y a un potentiel d'avancer qui est, on peut faire avancer la personne. On sent si vraiment c'est un truc juste pour le fun, du coup on se prend pas la tête et puis on kiffe le moment. Mais si on commence à sentir qu'il y a un potentiel d'apprentissage rythmique sur telle et telle notion, petit à petit on va commencer à pouvoir éveiller l'enfant sur des aspects d'apprentissage de rythme plus régulier pour créer des motifs rythmiques, etc. Elle a commencé à faire des petits motifs mélodiques qui vont sur les motifs rythmiques et ça commence à faire des mélodies. Puis on se sert de tout ce qu'on entend dans Frère Jacques, des choses qu'on a en nous depuis longtemps et qui se transmettent encore aujourd'hui. Et ça peut aller très vite en fait. Là, les enfants ils apprennent extrêmement vite, quoi. C'est assez déroutant.
Et oui, c'est déroutant. Mais au-delà de l'enseignement théorique, les leçons de musique sont une occasion de rencontre avec ce jeune homme qui certainement emmènera ses élèves sur des chemins à défricher ensemble. Avec la musique, tout est question d'échange et de confiance.
On va échanger aussi, on va partager, on va essayer d'apprendre ensemble des choses, parce qu'il faut savoir aussi que l'élève, il apprend énormément à son maître, parce qu'il le met face à ses limites aussi. Le maître aussi, il apprend tous les jours. Il y a des nouveautés chaque fois qu'un élève va lui apporter sa sensibilité à lui. Même si le maître, il peut quand même apporter ce qu'il connaît au niveau de son répertoire, au niveau de ce qu'il a appris lui. Des fois, il y a des élèves, ils sortent carrément du cadre et il faut quand même pouvoir s'adapter à eux. C'est pas le but de rejeter une quelconque un intrus, une anomalie chez quelqu'un parce qu'il rentre pas dans le cadre. Au contraire, on est là pour apprendre ensemble et ça reste souple quand même et dans l'ouverture d'esprit. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on propose, quoi. En fait, c'est la musique, ça peut avoir un côté solfège, donc très rigoureux, qui est bien à avoir aussi pour savoir quand on apprend le béaba dans l'alphabet français. On apprend qu'un A, c'est comme ça, un B, c'est comme ça, que la grammaire, c'est comme ci et pas autrement, que le passé simple, ça s'accorde comme ça. C'est toute une question de vocabulaire qu'on peut retrouver aussi dans la musique. Mais on peut se détacher de ça, détacher le mental et puis avoir une approche beaucoup plus de feeling et de ressenti, de ce qu'on a envie de faire et de nous, pourquoi on accroche plus avec ce type de musique plutôt qu'avec tel autre, et puis ça peut nous parler de nous-mêmes. Tel accord, il va nous évoquer beaucoup de couleurs, d'autres, il va nous faire nous sentir tristes, et puis ça peut être... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont totalement out de tout ce qui est apprentissage rigoureux, trop académique, trop rabâché, les mêmes notions de solfège, lassante, on a ce cliché du conservatoire de musique très lourd et tout ça. Bon, ça, il faut trouver l'équilibre, parce que c'est bon d'avoir tout, en fait, d'avoir ce côté très technique et comme ça on est un peu béton dans la tête, on sait un peu où est-ce qu'on va, mais c'est bien de pouvoir dominer cette chose-là, parce que sinon après si ça nous envahit, on va plus du tout pouvoir sortir de ce carcan de pensée unilatérale et tout. Faut quand même pouvoir de temps en temps mettre de côté, comme même Ravi Shankar quand il faisait des fois des masterclass devant des grands opéras et tout, il disait alors on ferme les yeux, on médite et puis là on laisse aller quoi, et puis ils se font des questions-réponses avec le maître, le gourou et l'élève, et tu lâches le mental et juste tu reproduis ce que le maître y fait. Mais comment tu vas pouvoir reproduire ce que fait le maître si t'as pas ton cœur qui vibre pour le maître? C'est comme un parent en fait, ton maître c'est comme ton père quoi, tu fais ce qu'il te dit parce que tu sais que c'est une relation d'amour que t'as avec lui. Donc c'est aussi beaucoup beaucoup d'humain, avant tout l'humain, la musique et l'humain, et ça c'est un langage universel qui parle aux humains. C'est un très bon outil pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre l'autre au-delà des mots, au-delà des différences, plein de choses quoi. La musique, c'est énorme, c'est beaucoup de vibrations, et de pouvoir se familiariser avec cette énergie, ça va nous donner confiance en nous en fait. On va pouvoir exprimer des choses, pouvoir comprendre des choses, et c'est quand même assez intéressant de pouvoir approfondir un peu ce thème qui est la musique.
Tout ce que tu dis là nous indique quel musicien tu es.
Oui, c'est ça. Musicien passionné, un musicien qui a grandi dans la musique. Et puis bon, c'est une relation d'amour aussi avec la musique, c'est-à-dire qu'avec la vie aussi, avec une personne aussi, avec un père. On n'est pas tout le temps d'accord avec les gens de sa famille. La musique, ça fait partie des gens de notre famille, dans le sens où elle est là. Elle est des fois on perd contact, des fois elle est souvent très présente. Et puis des fois on a besoin de silence. Donc c'est comme dans les relations. Des fois on a besoin de prendre du recul. Donc ça fait partie de la vie de chacun en fait, la musique.
Ouais, c'est intense, ça va vite, ça emmène. Alors justement, je vous propose de faire une petite pause pour continuer le portrait de David Bader et d'écouter l'une de ses compositions, Tristan, un univers bien particulier d'histoire et de paysages sonores, une musique qui parle de ce jeune homme, un artiste inspiré.
Thank you.
Tristan, David Bader. Alors, issu d'une famille de musiciens, c'est également au Conservatoire d'Avignon qu'il a appris la musique. Et aujourd'hui, chargé de l'enseigner, il propose de partager quelque chose d'essentiel. L'écoute, l'amour, on l'a entendu, la découverte du monde, une manière de vivre et d'aimer la vie, certainement.
Il faut s'accrocher au wagon, quoi. Faut suivre, même si on est un peu à la traîne, il faut s'accrocher. Voilà. C'est toujours bon de s'accrocher, de ne pas rester à la traîne, de rester comme ça sous le poids de ses propres limites, de se dire oh, on n'arrive pas à avancer. Tout, c'est pas vrai. Il y a toujours des gens qui sont là devant nous, qui nous ouvrent la voie, qui marchent devant nous et qui sont là pour nous dire vous pouvez y aller, je vous défriche le chemin, accrochez-vous, attachez-vous à cet enseignement-là. Et vous allez voir, c'est pour ça que l'amour est vachement important là-dedans. Il faut avoir une relation humaine entre l'élève et le maître. Combien de maîtres ils nous ont dégoûtés de l'enseignement au collège, au lycée, alors que en vérité ça passe avant tout par l'être humain qui est en face de nous, avec qui nous parle. Est-ce qu'il nous écoute, est-ce qu'on se sent écouté, est-ce que se sont compris, est-ce que l'enseignement est adapté à nous, à notre sensibilité. Dans la famille, on a brossé un large panel de, il y avait la musique classique très importante pour la formation de l'oreille, donc les grands classiques, Mozart, Bach et tout ça. Mais par contre, c'est toujours bon aussi d'écouter les Beatles, parce que toute la musique actuelle, elle a sa base aussi puisée dans des sources qui viennent en fait de la musique classique, et puis on peut remonter à d'autres sphères. Il y a plein de styles de musique. Il y a la musique des sphères, il y a la musique de l'Antiquité, il y a la musique du Moyen-Âge, et puis tout ça c'est beau. Et puis quand on a envie de se pencher dessus, c'est un monde vraiment. C'est des gens qui ont traversé l'histoire, qui sont venus apporter leur sensibilité avec leur culture propre, et nous on est un peu garant de ce flambeau-là qu'on retransmet aussi de génération en génération. En Afrique, ils ont les griots, c'est des sortes de poètes qui sont détenteurs d'un savoir musical de poésie, qui transmettent par la musique, par les contes à leurs enfants pour transmettre une culture, pour transmettre l'histoire, le passé.
Voilà. Eh bien, petits et grands, si vous avez envie de prendre des cours de musique avec David Bader, violon, guitare, piano, basse et solfège, ça se passe à Châtillon-en-Dyois, chez lui ou à votre domicile. C'est certainement une bonne adresse pour faire l'expérience de la musique, mais aussi, nous l'avons entendu, celle d'une rencontre stimulante. Prenez contact au 07 83 03 23 04 et vous trouverez toutes les informations sur le site de Erdiois. Et pour finir, j'ai bien envie de faire un clin d'œil à tous les musiciens apprenants qui, espérons-le, aborderont la musique comme un moyen d'être en relation d'une manière drôle, peut-être décalée, en s'amusant, toujours, toujours, bien sûr. Bobby Lapointe.
Ceci est une guitare. Je ne joue pas de la guitare classique, je ne joue pas du flamenco, je joue de la guitare sommaire. Je suis professeur de guitare sommaire. Je ne suis pas ici pour vous distraire, mais pour instruire. Maintenant, s'il y en a que ça amuse de rire, je peux aussi distraire. Je peux instruire en 10-13 ans, 13 ans et demi maximum. Après, je prends ma retraite. Petit cours de guitare sommaire. Une guitare est un instrument en forme de guitare qui comporte 6 cordes. Si l'on partage la guitare en deux par le milieu, ce qui n'est pas à conseiller, on obtient deux moitiés de guitare. Et trois cordes d'un côté, trois cordes de l'autre. Ces trois cordes du haut s'appellent par conséquent les basses. En guitare classique, en guitare sommaire, on ne les appelle pas, on les ignore. La grosse difficulté de la guitare sommaire est d'éviter de toucher à ces cordes du haut qu'on appelle les basses. Pour ce, ne tripotons pas la guitare avec tous les doigts. Servons-nous uniquement du pouce. Comme son nom l'indique, pouce, ça ne compte pas. Pouce, c'est pour rire. Ha ha, ha ha. Assérie, première leçon. Les deux accords. En guitare sommaire, nous avons deux accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces deux accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas, haha, et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, soit sur cette corde-ci que nous appellerons donc la corde-ci, soit sur cette corde-là que nous appellerons donc la corde-mi. Et nous obtiendrons les deux accords suivants, bling et blang. C'est très facile. Bling. C'est facile, mais il ne faut pas toucher les cordes à côté. Bling. Et blang, comme j'ai montré tout à l'heure. Exercice pour la prochaine fois, sur un cahier propre, 10 lignes de bling, 10 lignes de blang.
Merci, merci beaucoup Vincent pour cette chronique toujours plus rigolote et pleine de mots magiques. Et aujourd'hui, c'était sur la musique. Et maintenant, on va donner la parole à Nénu. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
De politique, encore.
Encore ? C'est parti.
Chronique Concept.
Ça parle de quoi ?
De politique.
Bonjour à tous, Chronique Concept, la chronique qui remet les points sur les i du mot politique. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En 1978 est paru aux éditions Le Seuil, un livre de sciences politiques qui a fait pas mal de bruit. Le sens caché, inégalité culturelle et ségrégation politique. Dans ce titre, sens, de sens caché, est écrit CENS, en référence au suffrage censitaire du XIXe siècle, qui permettait d'être électeur uniquement si l'on payait un certain seuil d'impôt. Donc c'est Daniel Gaxi, chercheur en sciences politiques, qui a écrit cet ouvrage. Ce livre y fait écho à beaucoup de notions qu'on a pu réfléchir jusqu'à maintenant lors de cette chronique concept du mercredi. Donc la démocratie versus le gouvernement représentatif, l'individualisme, la légitimité du pouvoir et indirectement l'abstention. Et ce que l'on appelle grossièrement, et probablement à mauvais titre, la crise de la démocratie, caractérisée par un manque de confiance soi-disant naissant à l'égard des hommes et femmes politiques. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai l'envie et l'occasion de consacrer une petite chronique au thème de la crise, qui est une notion tout compte fait omniprésente, mais assez floue. Donc dans le sens caché, Daniel Gaxi démontre comment un système électoral, basé sur le suffrage universel, peut cacher une forme de suffrage censitaire, en générant par le biais de la représentation une forme de dépossession politique des représentés qui s'auto-exclut de la sphère politique. Il remarque qu'un tri est fait, indirectement, puisque les personnes les moins dotées en capital culturel ou en compétences politiques et ou en compétences politiques, par exemple prendre la parole en public, disposer du langage politique, de ces personnes-là vont s'auto-exclure du vote et de la vie politique. Donc selon lui et d'après ses recherches, l'attention portée au champ politique dépend de la façon dont chacun, chacune, perçoit ses propres compétences à l'égard du politique. Compétences qui sont inégalement développées, acquises et transmises. Daniel Gaxi fait donc le lien entre cette auto-exclusion, qui est selon lui inhérente au fonctionnement du système démocratique représentatif, et le suffrage censitaire du XIXe siècle, puisque enfin, en fin de compte, les classes sociales les plus défavorisées sont exclues, malgré elles et malgré le droit de vote. Donc, j'avais donc envie de me pencher un peu sur cette notion de sens caché qui est devenue un concept en sciences politiques assez important, donc qui nous parle d'auto-exclusion. Et je voulais demander aux personnes présentes sur le marché, donc c'était la semaine dernière, un peu leur avis. Et j'ai récolté des petites interviews qui feront l'objet probablement de plusieurs chroniques parce qu'elles ont été très riches et elles permettent bien de percevoir qu'est-ce qui motive des formes d'auto-exclusion ici dans le Diwa. Et en fin de compte, elles permettent de comprendre ce qui motive l'abstention. Je vous laisse écouter.
En fait, je cherche à savoir si les gens se sentent légitimes de s'impliquer dans la vie politique, ou en tout cas de parler de politique.
si je me sens légitime à parler politique, bah, je pense que de toutes les manières, c'est important. Après, je pense qu'on est beaucoup à avoir mis de côté la politique, parce qu'on n'y croit plus en tant que tel. Mais après, si tu veux dire la politique au sens... d'agir pour la cité en repartant du local et des citoyens, alors bah, je vais te dire oui. Mais du coup, plus la politique avec les grands appareils, les grands, tu vois, au niveau national. Donc je dirais oui, la politique au sens d'agir pour la cité, mais au niveau local.
Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'auto-excluent de la politique, des gens qui peut-être se sentent pas légitimes de s'exprimer?
Ouais, je pense, ouais. Je pense. Bah, à la fois parce que Alors ça veut tout et rien dire, le système en tant que tel, ce qu'on dit toujours, le système, mais la façon de s'organiser globalement nous amène à certaines minorités à nous mettre à l'écart et à ne plus nous sentir, je pense, légitimes à la fois d'agir, ou on n'y croit plus, donc on... Voilà, soit on fait en sorte qu'on soit mis à l'écart, soit effectivement on se dit que c'est plus possible, donc du coup on n'agit plus, ouais. On se met soi-même à l'écart, ouais.
Est-ce que tu penses que c'est le cas dans le Diwa, qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'écart, ou est-ce que à l'inverse il y a plus de gens peut-être qui osent s'impliquer?
Moi je pense que la force de ce territoire, c'est peut-être de je sais pas si c'est le mot est fort, mais détourner la politique, pas la détourner, mais faire en sorte qu'elle se qu'elle agisse au travers des associations. En fait, pour moi, c'est le tissu associatif et le tissu large et diversifié des associations dans le Diwa qui fait que on arrive à mener des actes politiques, des actes de petits pas qui, effectivement, sont pas considérables à l'échelle nationale, mais qui, à l'échelle du territoire, font que ça change, que ça évolue. Donc, je pense que c'est pas tant par les partis, mais par les associations que je pense les lignes bougent et qu'on arrive à croire que quelque chose de différent est possible. Enfin, au moins écrire un autre récit.
Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas être quelqu'un de politisé?
Parce que ça me paraît un peu... Alors je m'en veux des fois de ne pas être politisée, parce que je me dis que du coup il y a plein de choses qui ne me vont pas dans cette société, et le fait que je ne sois pas politisée, peut-être que je ne contribue pas au fait que ça aide les choses à changer. Mais en même temps, tout ça me paraît hyper loin et hyper toujours la même chose, et des arguments autour de l'ego de personne, et voilà quoi. Et puis toujours des beaux discours, puis au final pas grand chose derrière, et au final j'ai l'impression que ça sert à rien quoi. Quand j'ai commencé dans ma vie politique, on va dire à 18 ans, j'étais toute contente, j'ai été votée fièrement et tout, les premières années, puis en fait j'ai vite laissé tomber parce que en fait je trouvais que ça avait aucun sens quoi. Alors là où je fais peut-être une erreur, c'est que je ne vais pas voter blanc, ce qui est plus un vote pour dire ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas voter tout court, souvent parce que j'ai mieux à faire, en fait. Mais pour moi, c'est encore plus contestataire que vote blanc, sauf que ce n'est pas comptabilisé, en fait, dans les chiffres, quoi. Donc c'est peut-être là où c'est un peu dommage, et là où, du coup, on se rend un peu moins compte que je pense qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont un peu comme moi, quoi.
Du coup, d'une certaine manière, vous vous auto-excluez du jeu des élections, mais c'est une... Enfin, là, vous avez dit que c'était pour vous aussi contestataire, donc y a quand même... Vous menez quand même une action dans ce geste-là, enfin, dans ce non-geste.
Et ouais, sauf que peut-être qu'on ne la voit pas, en fait, parce qu'elle peut être mélangée à plein de choses. On peut se dire, oui, bon, ben, c'est des gens qui étaient occupés, qui... Voilà, quand on voit les gens qui ne se sont pas exprimés, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, quoi. Donc, voilà.
Et est-ce que vous vous sentez légitime, par contre, auprès de n'importe qui, de parler de politique, de discuter de politique?
Non, je suis jamais à l'aise. Pourtant, je suis assez à l'aise à l'oral. Il y a plein de sujets sur lesquels je m'exprime sans problème. Mais politique, je suis jamais à l'aise parce que... Comment dire ? Je me dis que si je tombe face à quelqu'un qui est très politisé, il va retourner mes arguments comme des crêpes parce qu'en gros, il passe son temps à faire ça. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer en conflit avec des gens, ça m'intéresse pas forcément. Puis j'ai pas envie non plus de convaincre l'autre que ma pensée est juste. D'une part, donc c'est vrai que souvent, c'est... Et puis je pense qu'il y a aussi un truc culturel. Moi, je viens d'une famille où on discutait pas politique, c'est-à-dire j'ai pas affûté ce genre d'argument. J'ai des amis autour de moi, on sent que ça a toujours discuté politique à la maison, c'est un truc, on lance le sujet, on appuie sur le bouton et ça part, quoi. Moi, j'ai toujours l'impression que je vais dire des conneries, j'ai toujours l'impression que je vais être à côté de la plaque. Donc, en fait, je préfère rien dire, quoi. C'est vraiment un terrain sur lequel je n'aime pas du tout aller, quoi. Pourtant, bon, ben, j'ai mes convictions, normal, hein, comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas un terrain... J'ai tout de suite l'impression que ça va aller dans un truc de conflit, de « moi, j'ai raison et pas toi ». Et en fait, je vois pas le sens de ça, quoi. Je trouve qu'on est déjà dans une société assez divisée. C'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Je pense que peut-être on peut faire de la politique autrement. Il y a des expériences sûrement qui se font ailleurs, mais en tout cas, ce qui se passe en France, le système classique, là, les présidentielles qui arrivent et tout, enfin, pour moi, pourtant, je suis journaliste. J'ai beaucoup d'amis qui sont journalistes politiques, donc autant dire que je baigne là-dedans, mais je suis complètement à côté de la plaque par rapport à eux, quoi. Voilà. Et ça ne m'intéresse pas.
Est-ce que les gens se sentent légitimes de parler de politique, légitimes d'aller voter ou pas ou...
Absolument. Légitime, politique, c'est, ça vient de cité en grec, la police. Donc oui, tout à fait légitime à parler de politique. Hein. Il n'y a pas que les politiciens du haut qui finalement ne servent à rien puisqu'ils ne représentent même pas le peuple. Donc la politique, c'est vraiment la vie de la cité. Donc, oui, tout à fait. Tout le monde devrait se sentir légitime. Malheureusement, il y en a qui s'excluent. Effectivement, vous avez bien raison pour différentes raisons aussi. Hein.
Vous pensez que c'est qui s'exclut ?
Il y en a qui s'excluent volontairement parce qu'ils sont dégoûtés depuis des décennies déjà de la politique. Et puis il y en a d'autres, ils ont vraiment d'autres enjeux vitaux à penser avant de... C'est trop loin pour eux, on a tout fait pour que justement la vie de la cité soit loin d'eux. Ils se sont tellement éloignés de tout alors que tous les jours, il faut amener les enfants à l'école, il faut survivre, il faut travailler tous les jours, se lever. Voilà, il faut trouver du pétrole pour la voiture, etc. Donc ça oui, ça peut faire exclure des gens de la politique, ça, toutes ces vies quotidiennes, puis avec tous les soucis qui nous tombent dessus depuis 2 ans, quoi. Ouais, je crois qu'il y a une grosse cassure, quoi. Depuis les gilets jaunes, ça ne s'est pas amélioré, ça a empiré, on le voit bien.
Voilà, donc je continuerai d'aller à la quête de ces témoignages-là. C'est intéressant ce qu'elle vient de nous dire, cette personne. Bien sûr qu'il y a des personnes qui s'auto-excluent et c'est un processus conscient, mais il y a aussi voilà, des personnes qui s'auto-excluent puisqu'elles ne se sentent pas voilà, compétentes et qu'elles ont aussi bien d'autres choses à gérer, des enjeux vitaux, comme elle dit. C'est la fin de ma petite chronique concept et à la semaine prochaine.
Tu es sur RDIWA, Dire en direct, de 11h à midi, on est là, il est 11h35. Moi j'avais quelque chose à vous communiquer. Chez RDIWA, on a lancé les adhésions 2022. Et on a besoin de vous, la radio a besoin de vous, donc on profite de ce début d'année pour vous conquérir, chers auditeurs, au nom de cette adhésion annuelle. Donc ouais, votre radio est superbe à l'écoute, mais elle est surtout associative et participative. Donc grosso modo, voilà comment on fait. L'adhésion s'élève à 15€ par personne et par an, 10€ pour les petits revenus et comptez 50€ pour les structures. Et voilà, en échange, RDIWA vous dit un grand merci et met à disposition son matos radio et informatique pour tous les adhérents et adhérentes. Venez nous faire un coucou dans les bureaux où on a aussi un compte Hello Asso pour nous soutenir. J'ai fini cette petite annonce et on en a une autre.
Voilà. Vu qu'on est en train d'essayer de gratter un peu de l'argent parce qu'on en a besoin, on va aussi essayer de gratter des choses et de faire appel un peu aux dons.
Des plantes pour... En fait, voilà, on est en train de refaire l'intérieur du studio de lieu RDIWA et de l'EVS à Luc RDIWA, rue de la Piscine. Et pour ça, on vous dit qu'on a besoin, par exemple, de plantes, de présence aussi.
Et puis, je ne sais pas, de petits éléments de décoration qui donnent envie pour essayer de créer un lieu chaleureux. En fait, c'est un peu un local qui est encore un peu blanc, mur, plafond, tout ça. Donc, on essaye de le décorer. Donc, plantes, affiches.
Oui, affiches.
Affiches et des puis tissus. Mais surtout plantes, je crois. S'il y a des personnes qui ont des ficus ou quoi que ce soit qu'on pourrait accueillir, ce serait super chouette.
Voilà. À Luc, c'est 101.7. Maintenant, tu dois le savoir. Mais voilà, on enchaîne. 11h37, c'est la chronique mosaïque de notre librairie d'Iwaz, voilà.
Alors, dans le cadre des rencontres de l'écologie au quotidien, aujourd'hui, on reçoit Xavier Poux à la librairie pour son livre « Demain, une Europe agroécologique ». Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis là parce que j'ai été invité dans le cadre du festival Les Rencontres de l'écologie au quotidien, pardon. essayer de ne pas dire de bêtises. En fait, il se trouve que j'ai une attache avec le territoire via, dans mon cadre professionnel, une prestation autour de la Biovallée dans son ensemble, dans lequel Adi fait partie. Donc, quand Chloé m'a dit il y a un truc Adi, j'ai dit bah ouais, banco. En plus, c'est un coin que je trouve vraiment génial. C'était l'occasion de parler de ce bouquin qui, comme son nom l'indique, parle de l'agriculture à une échelle européenne. Pour moi, il y a une idée qui est très importante. C'est on connaît tous la formule penser global, agir local. Mais on voit que pour agir localement, souvent, on se heurte à des murs qui sont définis à un niveau global. Et donc, ce bouquin, il essaye d'adresser des questions qui se posent à une échelle globale, qui est celle de l'Europe, etc. Donc, c'est un livre qui parle d'une transformation possible de l'agriculture à un horizon d'une génération, on va arriver, et qui essaye d'identifier les conditions à cette échelle européenne pour que ça puisse se passer partout en Europe.
Est-ce que ces propositions sont entendues ou en tout cas entendables par l'Europe avec un grand E ?
Alors, on rentre un peu dans la technocratie européenne, ce qui est un peu chiant. Mais la réponse est paradoxalement oui, alors qu'en fait, on aurait pu s'attendre à ce que non. Alors, je l'ai écrit, c'est intéressant de le dire, parce que j'ai écrit avec un co-auteur, un copain, Pierre-Marie Aubert. Lui, il intervient encore plus que moi dans ces instances européennes. Par exemple, ce qu'il a constaté, c'est qu'en ce moment, il y a un grand débat en Europe autour de ce qu'on appelle le pacte vert, le Green Deal, et la stratégie de la fourche à la fourchette, qui est portée, c'est assez étonnant dans le cadre européen, parce qu'elle est portée au niveau de la présidence. Et on va dire que globalement, elle va dans le bon sens, c'est-à-dire moitié moins de pesticides, ce qui peut paraître à la fois dérisoire, mais ce qui est énorme en fait en termes d'affichage à une échelle européenne, la réduction de l'azote, le fait de manger moins de viande, ce qui est aussi complètement incroyable. Donc il y a ce mouvement qui est vraiment écologique, qui est porté par la présidence et qui est complètement combattu au sein de l'Europe aussi, des mêmes institutions, par des acteurs agricoles. Et donc ce bouquin, il est connu. Enfin, le bouquin et le travail qu'il y a derrière le bouquin, il est connu des gens de la Commission européenne, ce qui est déjà assez énorme. Et deux, il commence à être utilisé par certains acteurs de cette commission pour argumenter dans le sens d'une transition écologique. Donc on est bien au niveau des idées générales, mais nous, on pense que ça commence aussi au niveau des idées, l'action politique.
Une agriculture plus responsable, écologiquement plus intéressante, nécessite aussi du local. Est-ce que dans le modèle que vous défendez, ce local-là est une importance ?
Alors oui, mais il y a un gros mais. Je pense que cette pensée du local, elle est très puissante pour faire émerger des initiatives écologiques justement au niveau local. Je parlais de la Biovallée, c'est un bon exemple. Maintenant, le local, j'en parlais avec un copain écossais. Il me disait, et en Écosse, vous avez des endroits qui sont géniaux pour la biodiversité, des grandes landes qui dépendent des moutons, des Highland cattle, etc. Et il me disait, si moi, je dois être local, je vais avoir 3 vaches, 2 moutons, et je vais perdre toute cette biodiversité. Et ça serait la même chose dans le Larzac, etc. Donc, le local, ça marche très bien pour certains produits, et il y a d'autres produits pour lesquels ça marche beaucoup moins bien, l'élevage, les grandes cultures. Donc, il faut un petit peu dézoomer. Pour nous, c'est l'Europe qui est la bonne échelle pour penser l'articulation entre ces grands territoires. Donc oui, il faut maximiser tout ce qu'on peut faire au local, mais il ne faut pas réduire l'agroécologie uniquement à une problématique de local. Justement, il faut pouvoir penser des espaces qui sont intermédiaires. Et là, c'est vrai que ça fait un petit peu bouger les lignes par rapport à une image un petit peu idéalisée de l'agroécologie, où on va être autonome, etc. Non, ça, c'est pour nous, c'est pas la réalité des enjeux.
Donc, vous défendez une Europe, vous défendez une PAC qui serait plus éco-responsable, mais néanmoins qui resterait solidaire des voisins et des carences des uns et des autres.
Alors, je me rends bien compte qu'en ce moment, défendre une Europe, il faut quand même une certaine dose d'optimisme. Il ne faut pas jeter complètement le bébé avec l'eau du bain. Il y a des trucs qui restent et je pense que ça pourrait être bien pire sans Europe, ça c'est clair. Et oui, alors là, sur la PAC, là, je pense que c'est simple. Il faudrait faire exactement à peu près l'inverse. C'est ce qu'on dit dans le bouquin. Ça fait à peu près... moi, ça fait 30 ans que je bosse sur la question. Ça fait 30 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Hein. Faut pas se leurrer. Là, le bouquin, il apporte pas grand-chose là-dessus. Juste de rappeler ça. Et on connaît les chantiers qui sont à faire. C'est d'arrêter de payer à la surface, de cibler des aides qui soient vraiment... dirigé vers des pratiques agroécologiques, donc l'agriculture biologique, bien sûr, les ce qu'on appelle, c'est un peu jargonneux, mais les infrastructures agroécologiques, les haies, les prairies extensives, etc. Et là, il y a des moyens de faire, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu désespérant, mais je pense que c'est tellement désespérant. Moi, il y a un dossier que je trouve potentiellement très, très fort, c'est celui des pesticides. Mmh. Là, je pense qu'on est en train de voir que c'est n'importe quoi et qu'on se fout de nous. Dans l'évaluation, les instances qui sont censées être indépendantes ne le sont absolument pas. À l'occasion de ce bouquin, j'ai vu que pour l'Europe, la définition du conflit d'intérêts pour être mobilisé dans l'instance d'évaluation qui est l'EFSA, il ne faut pas avoir plus de 25% de son salaire qui vient... D'un groupe quelconque, quoi. C'est dingue.
Les lobbyistes ont encore de l'avenir, quoi.
Bah, les lobbyistes ont encore de l'avenir, mais moi, mon pari, mon espoir, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est que ça pète sur le front des pesticides. Parce que là, et là, il y a un journaliste au Monde qui, pour moi, fait un boulot génial, Stéphane Foucard. Il faut lire ses dossiers parce que là, il démontre bien tous les scandales qu'il y a derrière ce dossier-là. Et en plus, ces pesticides, alors c'est un côté sociopolitique, mais d'un point de vue écologique, c'est majeur de s'en passer parce que c'est la catastrophe, quoi.
Demain, une Europe agroécologique, c'est chez Le Domaine du Possible, Actes Sud. C'est chez Actes Sud, dans la collection Le Domaine du Possible. Xavier Poux, merci beaucoup.
Merci bien à vous.
Et puis, bon festival et à très bientôt.
Voilà, c'était la chronique Mosaïque. Et de suite... C'est un couple de musiciens qui s'est séparé, qui a arrêté. Mais voilà, on lance The Do. C'est très frais. Moi, ça m'annonce un peu le tout début du printemps. À l'écoute, c'est parti. C'était The Do. Et tout de suite, Yves est entré dans le studio et il va nous dire le menu de son jour.
Oui, c'est même assis, hein, bonjour. Voilà, et donc aujourd'hui je vais proposer la recette de la fondue d'Ivoise. Avant de continuer, je voudrais simplement signaler que pour cuire des croque-monsieur, il est préférable de mettre les croque-monsieur dans un plat engrais quand on les cuit au micro-ondes. C'est tout. Et donc nous allons passer à la recette du jour. Donc cette fondue d'Ivoise, ça inaugure un peu ce printemps qui arrive tranquillement. Pour 4 personnes, donc il faudra 1 kg de picodon bien sec, ensuite 1 litre de clairette bio, 500 g de croquettes bio et 100 g d'ail des ours. En cas de non-fraîcheur de l'ail, vous pouvez toujours les acheter en bocaux. On peut en trouver facilement ici, dans le Diwa. Alors, pour commencer, on prend un plat engrais, et là, bien rond et profond, comme la semaine dernière, vous y étalez les croquets et vous versez la clairette. Mettre cela au micro-ondes, en chaleur douce et de temps en temps remuer. Pendant ce temps, vous pouvez commencer à râper les picodons dans un saladier. Les croquer ramollis, vous les écumez et les déposez sur un torchon. Ensuite, vous versez la clairette chaude sur le râpé de picodons et remuez délicatement jusqu'à obtenir une pâte onctueuse. Ajoutez l'ail des ours haché menu, bien mélangé. En cas de bocaux, n'hésitez pas à verser tout le bocal, cela ne manquera jamais suffisamment. Ensuite, au besoin, ne pas hésiter à passer le tout au presse-purée s'il y a encore des grumeaux de picodons récalcitrants. Et ensuite, si la préparation est trop liquide, vous pouvez verser une ou plusieurs cuillerées à soupe d'aragaraga. Pour ma part, moi j'ajouterai plutôt du fromage kiri, c'est plus goûtu. Ou alors, il y en a, si vous voulez, plutôt de la margarine. Ensuite, mettre le tout dans le plat profond et rond et chauffer au micro-ondes. Surveiller, bien sûr. Et pour le repas, il est préférable également de réserver une place sur la table pour le micro-ondes afin de réchauffer la fondue si nécessaire. Disposer les croquets sur un plat avec des pics ou des fourchettes à disposition. Servir avec du soda bien frais. Le contraste des saveurs se révélera. Bon appétit!
Merci Yves, merci. Ouais, les fondues, bon, on arrive à la fin de la saison quand même, on peut peut-être en faire une dernière. Et on vous laisse, chers auditeurs, sur la chronique de Sarou qui nous présente une radio associative toutes les semaines. Voilà, merci de nous avoir écoutés, c'était Dire en direct et on lance la chronique.
Une radio.
Sénat.
Chiffres publiés hier soir.
Présentés succinctement.
À travers une collaboration mondiale.
Alhamdoulilah.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans toutes les autres régions.
Et les causes. Mes boots Brunston sont adaptés à toutes les situations. En plus, le prix est fin valable. À partir de 8900 francs seulement.
Une semaine, une radio.
Et qu'on va pouvoir adapter ici.
Grosse envie, une grosse demande.
Pas tant que ça, quand même. Quoi. 30 crêpes, quoi.
Mais malgré qu'on sait aussi que beaucoup de gens font déjà ça, hein, on l'a déjà vu, mais j'ai été témoin de ça. Hein.
Direction l'île de la Réunion et la commune du Port, avec Néo FM et son président Giovanni Haro. Salut à toi.
Salut.
Est-ce que tu pourrais nous présenter ta radio ?
Bah écoute, c'est une radio qui est sur le bassin ouest de l'île de la Réunion. En fait, on est mis sur une seule fréquence. C'est une radio à peu près musicale qui tape dans les 10 à 50 ans à peu près. On passe les années 90 de temps en temps. On passe aussi de la musique locale, on a des créneaux. On fait des émissions, des interviews d'associations. On fait aussi des conseils municipaux en direct. Et c'est une radio associative qui existe depuis 1996 exactement. L'équipe qui est en place en ce moment, on a repris la radio, c'était en 2011, mais c'était monté dans le temps où c'était un petit peu après la libération des fréquences, comme toutes les radios associatives. le moment où ils ont créé la radio, ils n'avaient pas trop de moyens, comme je pense toutes les radios associatives. Ça s'est créé avec une bande de potes, et nous on a repris un petit peu cet esprit passionné de radio, d'où il n'y a pas de salariés mais plus de bénévoles. Et c'est des passionnés qui donnent du temps, et c'est donné aussi l'occasion aux personnes qui ne sont pas de la radio de s'exprimer, type association ou encore artistes de La Réunion ou des gens qui sont passionnés de leur métier aussi.
Tu nous dis qu'il n'y a pas de salariés du tout à Néo FM.
Oui, c'est ça. On est à 10 bénévoles. Il y a majorité de DJ qui font des émissions chez nous. Il y a des animateurs et animatrices. Il y a des techniciens aussi qui font des fois double casquette, c'est-à-dire techniciens et animateurs aussi. Comment on fonctionne ? On fonctionne sur des subventions du FSER et aussi sur une subvention aussi d'une mairie dans laquelle on est sur la ville de la Possession, et qui nous donne aussi une subvention qui nous permet un petit peu d'exister, de rester solide sur la FM.
Est-ce que tu pourrais nous présenter la zone de diffusion ?
Alors, la zone de diffusion, elle part de la Possession, Saint-Paul, Le Pan. En fait, Le Pan, c'est le poumon un peu de l'île de La Réunion. Ça se dit Le Pan parce qu'il y a le port de La Réunion, il y a un seul port. Et donc, on est mis sur cette région, c'est le bassin, en fait, c'est la baie de Saint-Paul, où là, justement, c'est la plus grande commune de l'île. Et on a aussi la Possession qui jouxte un peu le nord de l'île et l'ouest. Ça fait moins de 100 000 habitants, à peu près.
Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un peu de votre ligne éditoriale ? Vous pouvez passer vraiment de longs moments à discuter avec parfois une seule personne ?
Oui, en fait, il y a des émissions qui sont programmées chaque samedi matin. Où on donne la parole aux associations, on fait justement une heure d'interview. Mais généralement, les une heure, on ne les tient pas, on les dépasse. Et nous, comme on n'est pas une radio commerciale, on est une radio associative, donc on laisse le temps aux gens de s'exprimer, le temps qu'ils ont besoin. Donc c'est des associations qui viennent le samedi matin. On a aussi le mercredi après-midi, on a une heure aussi qui est consacrée soit aux gens qui sont passionnés, c'est-à-dire passionnés de leur métier, ou qu'ils ont une passion à part d'autres pour s'exprimer. Et là, pareil aussi, ils nous expliquent pendant une heure, on laisse l'antenne et ceux du direct. Et ce qu'on fait dans ces émissions, on enregistre aussi ces interviews qui sont rediffusées la semaine pour les gens qui ont raté justement ces interviews, que ce soit des artistes, des groupes locaux, toujours, ou des associations qui œuvrent un petit peu partout dans l'île. Ça, si tu veux, on accueille aussi des gens auxquels ils nous captent pas sur leur zone, comme le sud, le nord ou l'est. On leur donne aussi l'occasion de s'exprimer malgré qu'ils ne nous entendent pas là-bas chez eux.
Qu'est-ce que vous voulez faire dire et faire entendre ?
Alors, il y a des associations qui surtout œuvrent, on va dire, pour aider les autres. On a une association, en l'occurrence, qui me vient à l'idée, là, c'est une association qui travaille avec des enfants qui sont à l'hôpital, qui sont placés parce qu'ils ont eu des déboires avec leur famille, c'est des ados. Une fois par an, on allait les voir parce que, bon, il faut dire que les hôpitaux ne nous ouvrent pas trop leurs portes aussi. Et cette association-là, qu'on se déplace, on amène du matériel et on enregistre un petit peu leur émission qu'ils ont préparée. On a aussi cette même association, qui aussi œuvre aussi dans les écoles, on les suit aussi. Après, il y a tous les ans, on essaie aussi, bon là, malgré, on va dire, la crise sanitaire, il y a une école, il y a deux classes avec deux professeurs qui se déplacent dans une classe de lecture. C'est pas comme vous, par exemple, quand vous avez une classe de lecture, vous pouvez vous déplacer à 200, 300 kilomètres. Nous, c'est moins de tout ça. C'est, par exemple, à 80, enfin, allez, on va dire à 60 kilomètres de chez eux. Mais tous les soirs, on faisait un direct. Et les enfants parlaient un petit peu, ils étaient en stage, et ils parlaient un petit peu justement de leur journée, donc ils racontaient. Là, c'était avec les écoles, on fait de l'atelier média-école aussi, Et ça dépend des profs qui nous interpellent justement sur le territoire, la position, qui nous disent on voudrait faire une émission. Et voilà, on a fait une émission, par exemple, classe de lecture qui a duré 4 jours à suivre, où là, les parents étaient scotchés à la radio pour entendre leur enfant à la radio. On a aussi un autre atelier radio-école qu'on a fait aussi avec un professeur aussi qui faisait des rencontres intergénérationnelles, c'est-à-dire nos anciens et les nouveaux. Ensuite, il y avait une association aussi qui vient nous voir aussi régulièrement, c'est celle qui font l'école de la deuxième chance aussi. Voilà un petit peu ce qu'on fait généralement.
Et niveau musical ?
C'est niveau musical, on a aussi, on passe du national, de l'international, ce que les jeunes aiment en général. On a aussi une heure consacrée aux artistes locaux qui est bien ciblée. Donc ça, c'est qu'ils nous envoient ou on laisse notre boîte mail à l'antenne et ils nous envoient leur titre. Et là, on les programme sur une heure par jour ou deux heures. C'est bien ciblé. Après, on peut passer aussi des années 90 aussi. Et puis, un petit peu la programmation, ça tourne en fait la journée.
Est-ce que tu nous dirais, Giovanni, que Néo FM est en phase ascendante, descendante ou de stabilisation ?
Allez, je dirais qu'elle est en phase de stabilisation parce que c'était une radio associative qui allait mourir en 2011. Les anciens qui étaient là ne voulaient plus de cette radio. Ils avaient un peu laissé à l'abandon la radio. Nous, on l'a repris et je dirais vraiment que depuis qu'on l'a repris, ça fait plus de presque 10 ans. Eh ben, elle est stabilisée, on a eu, il faut dire les choses comme elles sont. On a eu des déboires avec le CSA, que tout le monde connaît, ceux qui ont des radios. Et donc depuis qu'on est là, on va dire qu'elle est stabilisée à 100%, et donc on n'a plus de déboires, on est réglo, voilà, le mot est réglo.
Quelques éléments de com' pour terminer.
Alors, Ville de la Possession, trois villes exactement. Ville de la Possession, Le Port et Saint-Paul, c'est-à-dire le bassin ouest. Quand on part, il y a une fameuse route qui fait parler d'elle ici, qui s'appelle la route du littoral, celle qui n'est pas finie malheureusement, mais on part de là jusqu'à les plages de La Réunion. Ça se passe sur le 104.1 FM. Et sur notre site internet, vous tapez www.neofm.radio. Et sur les réseaux sociaux, vous tapez NeoFM La Réunion, NeoFM La Réunion, tout simplement.
Merci Giovanni pour NeoFM.
Eh bien de rien et bonne continuation à vous.
Oui, alors voilà, merci auditeurs, auditrices pour nous avoir écoutés dans ce Dire en direct. Voilà, on avait envie de vous dire un petit mot. Ça fait c'est notre 5e Dire en direct. On a commencé la première semaine de janvier. Et voilà, on se disait que ça serait peut-être intéressant pour nous d'avoir un peu des retours, de savoir comment vous vivez la chose. Dites-nous donc un peu ce que vous en pensez. Donc on a une adresse mail pour ça qui est direndirect@riseup.net, donc riseup R-I-S-E-U-P. Et sinon voilà, on est 8 places de la République à 10, et vous pouvez venir dans le studio donc
les mercredis 11h à midi,
et aussi quand vous voulez au bureau pour nous donner vos retours, on est là, voilà, quand vous voulez passer dans la semaine. Donc
merci
tous
beaucoup.
Bonne semaine.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir.